Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, eh bien je vous propose que nous ouvrions notre Bible, parce que c'est la référence absolue pour nous, hein, pour chrétiens, c'est l'autorité de notre foi, et qu'est-ce que nous faisons ? Nous ouvrons la parole de Dieu, nous ouvrons la Bible. Et nous allons donc nous tourner vers le Nouveau Testament dans l'Épître aux Romains, chapitre 15. Et je voudrais simplement introduire avant la lecture, nous conduire dans cette belle aventure, parce que c'est une belle aventure, vous allez en juger vous-même d'ici quelques instants, ce que j'ai appelé l'aventure de la communion fraternelle. Eh oui, de l'amour fraternel. Imaginez-vous que chacun d'entre nous, il y a 10 ans, 20 ans, il y a 2 mois, on ne se connaissait pas, en fonction naturellement de notre découverte du Seigneur Jésus. On venait de différents horizons, peut-être avec des éducations qui n'étaient pas les mêmes, à travers des cultures différentes, couleurs de peau, enfin, on n'était certainement pas appelés à se rencontrer. Et puis, à partir du moment où on a rencontré Jésus, on a rencontré des frères et des sœurs. On est rentré dans une famille. C'était notre famille spirituelle, c'est notre famille spirituelle. Et c'est une aventure. Alors il y a parfois des chagrins partagés. Il y a parfois des difficultés à surmonter. Il y a quelquefois, des choses inattendues qui surviennent dans l'Église que nous regrettons profondément. Alors ça, c'est le côté un petit peu négatif. Mais à côté de cela, et c'est ce qui fait justement la valeur de la communion et de l'amour fraternel, c'est que nous avons et nous apprenons encore aujourd'hui à nous aimer les uns les autres. Et ça, c'est important. C'est important. Donc j'ai appelé ça l'aventure, tout simplement. Une belle aventure que nous partageons et nous parlons de la famille de Dieu. Notre Père, notre Dieu, c'est notre Père céleste. Jésus-Christ, c'est notre frère, c'est notre sauveur, c'est notre Seigneur. Alors, on va lire ce texte. C'est Paul qui est l'homme inspiré pour nous dire et nous rappeler ces paroles. Verset 1er. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas chercher à ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification, car Christ n'a pas cherché ceux qui lui plaisaient, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Voilà ce que nous avons devant les yeux et que nous allons maintenant, méditer mot après mot, parce que je pense qu'il y a là, un formidable rappel pour entretenir, persévérer et conforter notre relation les uns avec les autres, en gardant naturellement, les yeux fixés sur Jésus. On va se porter vers une petite étude, brève, de quelques références qui règle le comportement des chrétiens dans l'Église. Alors, il y a un comportement extérieur, le mieux et le plus crédible possible, si nous disons que nous sommes chrétiens, mais il y a un comportement, finalement, entre nous, qui doit permettre à l'Église de grandir, de s'épanouir, de travailler, d'œuvrer à l'œuvre de Dieu. Il s'agirait de peut-être mettre l'accent ce matin sur la communion ou l'amour fraternel authentique. Eh oui, alors j'appuie sur cet objectif, l'authentique, authenticité. Parce que combien Jésus a-t-il pu décrier les pharisiens qui dans le temple ou dans les synagogues, où il n'y avait aucune authenticité, ils disaient « mais Dieu est notre Dieu, nous aimons Dieu, nous servons Dieu », voilà, mais On sait très bien que quand on lit Matthieu chapitre 23, Jésus a été d'une grande sévérité en disant « Mais vous dites que vous êtes juif, que vous appartenez à Dieu, vous êtes l'Israël de Dieu. » Mais finalement, c'est un démenti permanent avec la manière dont vous vous comportez à l'extérieur, mais dont vous vous comportez dans le temple. À tel point que Jésus, à un moment donné, certainement révulsé, mais avec une sainte colère, mettra tout le monde dehors en disant « Écoutez, arrêtez, on n'est pas là au supermarché, faut arrêter tout cela. » Donc c'est pour ça que je dis authentique. Et l'authenticité, elle doit être finalement eh bien au milieu de nous. On n'a pas à jouer une comédie, on n'a pas à avoir des masques, on n'a pas à se maquiller, on n'a pas à présenter quelque chose d'autre que ce que nous sommes quelque part. Et si nous sommes authentiques, eh bien nous le sommes en Jésus-Christ. Alors, ça, c'est tout le travail de l'esprit en nous, pour nous travailler, pour nous amener, eh bien, finalement, eh bien, être. Vous avez remarqué avec moi le verset premier. Dans la première partie, il est dit, nous qui sommes forts. Oui, on peut donner cet à propos que Paul met devant nous. Nous qui sommes forts, parce que nous sommes anciens, parce que nous avons déjà de l'âge dans la vie chrétienne, nous connaissons bien l'Église, nous avons œuvré, Alors c'est une façon de considérer qu'on peut être fort de ce côté-là. Alors, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Il y a donc une chose à faire. Il y a des choses qu'il faut, qui sont recommandées, et des choses qui sont non recommandables et recommandées. Une chose à faire, c'est, selon ce que Paul nous dit, c'est apprendre à supporter les défauts, les faiblesses et les différences entre nous. Alors, les défauts. Je pense que quand on s'est converti, on en avait. Et après être converti, on en a encore. Je suis désolé. Bon. Alors, quelquefois, les défauts, c'est ceux qui suivent avec nous, qui s'en aperçoivent. Et nous, on dit, on est bien, hein, on est pas mal. Et on n'aime pas quand on nous dit, mais arrête avec tes défauts. Voilà. Alors, les défauts, ça existe. Et ça existe, figurez-vous, et soyons pas surpris. Ça existe même dans le peuple de Dieu. C'est pas parce que nous croyons en Jésus-Christ que d'une manière immédiate que nous sommes déjà des anges, que nous sommes transformés en anges. Non, pas du tout. Des défauts. Supportez. Les faiblesses. Alors c'est vrai qu'il y a des forts parmi nous. Des gens qui sont bien assis et qui sont capables, voilà. Mais faut pas faire de la force un moyen pour, dominer les autres. Bon, ça c'est dit, hein. Les faiblesses et les différences entre nous. Heureusement que nous sommes différents. L'Église de Jésus-Christ est une véritable mosaïque à l'infini. Nous parlons de l'Église dans nos pays occidentaux. Mais si je vous parlais de l'Église de Jésus-Christ en Afrique, si je vous parle de l'Église de Jésus-Christ au Vietnam ou au Cambodge, si je vous parle de l'Église de Jésus-Christ aux USA, au Canada et dans toutes sortes de... dans les îles du Pacifique, mais c'est toujours Jésus-Christ. C'est l'Église de Jésus-Christ. Mais nous serions peut-être choqués de voir les différences. Moi, j'ai entendu des missionnaires ou des frères qui sont partis dans d'autres à vivre en disant, dites donc, j'ai eu du mal à m'y habituer. Parce que, entre, finalement, nos cultes que nous avons dans nos églises occidentales, peut-être même dans l'église de Saint-Nazaire, qu'est-ce que ça bouge ? Bien, on parlait de feu, hein. Fais attention au feu, hein, Michel, hein, parce que quand ça souffle, hein. Mais peut-être, voilà, c'est les différences. Alors qu'il peut y avoir... au milieu de nous, des frères et des sœurs qui ont des défauts. Moi, j'ai des défauts. Si vous voulez savoir, vous irez voir Myriam. Hein, mais bon, elle connaît bien. Hein. Ça fait quelques mois qu'on est mariés, alors donc, elle connaît bien. Elle s'est déjà aperçue de beaucoup de choses. Mais bon, toujours est-il, les défauts, les faiblesses, il y a des frères qui sont faibles. Et puis, il y a des frères aussi qui sont tout à fait différents. Alors, qu'est-ce que je dois faire et comment je puisse me comporter? Parce que tout ça, eh bien, c'est une formidable alchimie et c'est le Seigneur qui peut... finalement, eh bien, mettre tout ça en place. La communion fraternelle, quelqu'un l'a dit et je le rappelle, serait semblable à une chaîne, en quelque sorte, mais une chaîne agréable, hein, je tiens à le dire, hein, une chaîne dont la force équivaudrait ou équivaut à celle de son maillon le plus faible. C'est pas parce que je suis fort que tout le monde doit finalement, eh bien, là, être réglé par rapport à ça. Non. Nous avons, nous, les uns et les autres, les habitués, les anciens, les forts, etc., qui avons la connaissance de la théologie, etc., nous avons à nous mesurer par rapport non pas à celui qui est fort ou ce que je suis fort, mais à mon plus faible frère dans l'église, mon frère ou ma sœur dans l'église. Parce qu'une chaîne, elle a toujours un maillon faible à un moment ou à un autre. Et c'est ça la norme, en quelque sorte. Et on va le retrouver dans notre méditation tout à l'heure. C'est qu'il y a quelque chose qui fait que c'est pas de toujours pousser vers le haut, mais de pouvoir regarder aussi vers le bas, parce que vous savez que Jésus, de fort qu'il était, de divin qu'il était, s'est fait humain, hein. Et il est venu véritablement dans la misère la plus extrême des hommes pour dire « mais je suis venu pour vous sauver ». Et non pas pour dire « je suis le grand Dieu, hein, je suis le monument universel, etc. etc. » Non, c'est le contraire qui s'est passé. Donc rappelez-vous que quelque part, cette chaîne équivaut, la force de cette chaîne équivaut à celle de son maillon le plus faible. Moi je trouve que c'est une idée très pertinente parce que ça va nous donner beaucoup plus de modestie et d'humilité et de compassion pour ceux qui n'y arrivent pas. Pour ceux qui ne peuvent pas y arriver comme moi j'y arrive, c'est tout simplement la même chose. Parce que Paul soulignera une chose, et dans toutes ses épîtres, l'égoïsme est proscrit au milieu du peuple de Dieu. Je dis bien proscrit, hein, ça ne plaisante pas ça. Hein. L'égoïsme, c'est comme l'orgueil d'ailleurs, l'égoïsme et l'orgueil, ça va ensemble. Hein. Moi, moi, moi et que moi, hein, de toute façon. Et or, la parole de Dieu nous dit que mon frère, ma sœur, est supérieur à moi-même. C'est pas une question de fonction. C'est pas une question de titre, que je m'appelle pasteur, que je m'appelle frère ancien, que je suis là depuis 40 ou 50 ans dans l'église, non. L'autre, je dois avoir une vision maintenant changée, l'autre est supérieur à moi-même. On en reparlera. Dans la suite, il est bien dit, et ne pas chercher ce qui nous plaît. Ah, nous avons là, finalement, eh bien, quelque chose à ne pas faire, ce qui nous plaît. Et on est dans la suite logique du mot que je viens de prononcer, l'égoïsme, naturellement. En d'autres termes, l'apôtre Paul nous dit en substance que personne ne doit rechercher ce qui lui plaît à lui, ses avantages. C'est vrai que c'est une micro-société où nous pouvons finalement trouver des avantages, l'avantage de ceci et cela. Je ne les développe pas, mais de dire, eh bien voilà, je viens dans l'église et j'y trouve peut-être mon avantage, parce que je peux être secouru, je peux être aidé. Il y a quelquefois un formidable dépannage lorsque je suis mal pris, ou il y a toutes sortes de choses qui peuvent être faites. Donc, c'est pas l'avantage. Ce sont pas les intérêts. Et c'est pas non plus la popularité. Parce que, Certains sont dénoncés dans l'église sous la plume de l'apôtre Paul de vouloir finalement être au-dessus et de pouvoir dire, eh bien moi je suis monsieur, je suis madame, je suis le frère, je suis la sœur, et croyez bien que popularité qui, les uns et les autres, avantage, intérêt, popularité propre, c'est-à-dire d'y retrouver quelque chose, d'en profiter, on peut peut-être mettre le mot profit, au détriment des autres. Parce que si je veux me grandir et que l'autre se rabaisse pour que je puisse être grand, je sois obligé de le rabaisser. Bah, vous savez que Jésus a un jour réglé le problème avec, je crois que c'était Jean et Jacques, les fils de Madame Zébédée, et qui lui dit, mais moi je voudrais être le premier à gauche et je voudrais être à ta gauche dans le royaume de Dieu. Bah, Jésus a réglé le problème, hein, ça c'est clair. Donc c'est un état d'esprit au détriment donc des autres, ce que je veux, ce qu'il me plaît, ce que je sers. C'est-à-dire que on en reviendrait à dire que l'Église, on va s'en servir dans cet état d'esprit des choses qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire de l'utilitarisme. L'Église me sert. L'Église va contribuer finalement, eh bien là, je vais me complaire en quelque sorte. Donc c'est l'utilitarisme. C'est pas bien puisque nous sommes tous appelés à servir. Hein. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Et si tu veux être, eh bien, au-dessus, tu vas devenir le serviteur de tous. Ça, c'est ce que Jésus nous dit, hein. Le bien-être d'autrui devient prioritaire, nous dit l'apôtre Paul. Le verset 2, puisque je vous ai parlé d'une petite étude, que chacun de vous, de nous, plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Voilà. Ça, c'est le positif qui ressort finalement, eh bien, de notre petit débat de ce premier verset. En quelque sorte, cherchez le bien, cherchez ce qui est bon. Bon. Et il y a naturellement bienveillance dans la qualité humaine, c'est-à-dire le meilleur. Pas prendre tout pour moi, et puis, s'il en reste pour les autres, eh bien ils pourront, mais non, non, le meilleur. En imitant ce que Dieu est. Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Dieu est bienveillant. Dieu est rempli d'une immense bonté, et ses bienfaits se renouvellent chaque matin sur ceux qui espèrent en lui. Voilà, la bonté de Dieu. Dieu est parfaitement bon, c'est ce que la Bible nous dit, parce qu'il nous en a donné l'exemple en Jésus-Christ. Comment pourrions-on dire à un Dieu qu'on ne voit pas, perdu dans l'immensité du firmament, qu'il est bon? Mais vous savez que la bonté de Dieu s'est vue manifester dans la personne de Jésus qui s'est fait homme, qui a marché parmi les hommes, qui s'est fait le maillon faible dans un peuple qui se sentait si fort, Israël. Et on s'aperçoit que, quelque part, eh bien, nous trouvons tous ces caractères à travers le fruit de l'Esprit dans la personne de Jésus. La bonté, la bienveillance, la compassion, tout ça, c'est le caractère de Dieu. Et si je dis que je suis chrétien, alors à ce moment-là, il me reste quelque chose à faire. Dieu, c'est l'unité. Dieu, c'est l'équilibre. C'est l'harmonie à la perfection. Et quand on rentre dans une église, quand on adhère à une église qui n'est pas finalement eh bien le critère principal, parce que si je me convertis à Jésus-Christ, je me convertis pas à une église, encore moins au pasteur, hein, ça c'est grave. Non, mais à partir du moment où je déclare que je suis chrétien, je porte le nom de Christ. Et Christ est la révélation dans la réalisation, dans la démonstration de ce que Dieu est dans sa perfection de bonté, et ce que nous venons de dire, tout simplement. Ça, faut l'avoir à l'esprit. Parce que si je suis un simple passager dans une église, en mettant ce qui me plaît de côté, enfin, ce qui me plaît, je le prends, et puis le reste, je le rejette, à ce moment-là, quel pourcentage pourrions donner de vie spirituelle à ce chrétien, naturellement? Alors, quand il y a ce genre de qualité, il y a forcément, il en découle l'unité de l'Église. Et on comprend pourquoi. Soyez bons les uns envers les autres. Partagez. Et c'est ce que nous faisons. Moi, je le reconnais. C'est pas là pour vous donner des compliments. Mais quand il y a une mission particulière pour aider, là, on avait les Antilles, on a les persécutés, on a en permanence l'entraide et puis également la mission et puis d'autres situations. À chaque fois qu'il y a quelque chose, l'Église répond. Et elle répond bien. Parce que quand vous donnez par-delà vos offrandes habituelles du culte. Et moi, je dis que ça, c'est le cœur qui parle. On ne peut pas rester indifférent. Et puis, dans d'autres manifestations, je sais qu'il y a des frères et des sœurs qui s'aident entre eux, sans que ça vienne, finalement, du haut de l'estrade pour dire, eh bien, on va faire ceci et cela. Oui. Des petits services qui sont rendus. Toutes sortes de choses. Parce que c'est une manifestation, finalement, d'imitation à ce que Jésus est. Jésus, dans toutes les pages de l'Évangile, quand il nous parle du bon samaritain, on en reparlera tout à l'heure, mais le bon samaritain, c'est Jésus. Entre autres, hein, le maillon faible, celui qui s'est fait plus petit que les autres pour venir les sauver, hein, naturellement. Donc, nous avons besoin de nous souvenir de cette parole parce qu'elle est quand même importante. Jésus le dit, et il dira, si vous vous aimez les uns les autres, si vous vous aimez les uns les autres, c'est ainsi que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Eh ouais. Et je trouve que c'est une parole magnifique. C'est ainsi que le monde extérieur, dans vos familles respectives, que à ce moment-là, même quelquefois, ils peuvent être jaloux en disant bah, « tu n'en vois et tu n'en prends que pour ton église ». Non, faut continuer à aimer aussi ceux qui sont nos frères et nos sœurs dans la chair. Hein. Leur montrer l'affection, c'est pas parce que je suis chrétien que je suis au-dessus d'eux. Hein, et que finalement, je dois les mépriser parce qu'ils ne croient pas ce que je crois. Ça, c'est une position qui est voire même scandaleuse. Parce que on n'est pas du monde, mais néanmoins, on n'a pas l'esprit du monde. Mais on doit aimer le monde, et particulièrement ceux qui sont nos plus proches, parce que finalement, eh bien, Jésus a dit la chose qu'il nous garderait dans ce monde. Mais néanmoins, nous avons une communication de bonté, de manifestation et d'amour à leur apporter. Ça, c'est important. Alors, si vous vous aimez les uns les autres, c'est ainsi que le monde verra que vous êtes mes disciples. Et ils reconnaîtront qu'il y a quelque chose. Pas des hypocrites qui là, eh bien là, viennent le dimanche matin un culte et puis qui se parent de toutes sortes de, hein, toutes sortes de choses et qui quelque part dans l'extérieur, dans la vie professionnelle ou la vie sociale, n'ont vraiment pas un comportement chrétien, ni en parole ni en action. Hein. Alors, le monde verra et les gens diront à un moment donné, ah oui, il y a quelque chose de particulier chez cet homme, chez cette femme, chez ce jeune homme, cette jeune fille, il y a quelque chose. C'est la communication, finalement, de la personnalité de Jésus que nous apportons autour de nous. Et pas de pierre d'achoppement sous prétexte, tout simplement, de notre liberté chrétienne. Moi, excusez-moi, hein, mais c'est une parenthèse. Mais on peut pas dire. Moi, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de faire ceci à l'extérieur, si j'ai envie de faire cela, même si je frôle les limites de ce qui est licite ou illicite, de ce qui est permis, de ce qui n'est pas permis, j'en ai rien à faire de ce que les chrétiens vont penser. Non. Ça, c'est pas bien. Parce que c'est blesser la conscience. Parce que tant qu'ils l'apprennent pas, ça va. Mais le jour où ils vont l'apprendre, ils vont être choqués. Ils vont être blessés dans la conscience. Je peux me permettre de faire avec mon argent ce que je veux. Non. Parce que si c'est pour, comment, frimer? Oui. Hein, c'est ce que l'on dit, hein, etc., etc., c'est pas la peine. Voilà, et ça sert à quoi, de toute façon? Hein, ça sert à quoi? Alors, quelquefois, certains se sont réfugiés dans la liberté chrétienne. Christ m'a affranchi. Christ m'a donné la liberté de tout faire, et puis après, c'est ma conscience, et puis les autres, ça les regarde pas. Non, je pense que quand on est dans l'Église, il faut faire attention à avoir un témoignage qui respecte la conscience. Parce qu'il y a des faibles. Comment se fait-il que ce frère, qui est fort, il se permet ceci et cela, moi, je peux pas le faire? Donc je vais le faire pécher. Je vais le faire pécher parce que je vais l'amener à juger. Et je n'ai pas le droit d'amener un frère à pécher, conduire à pécher, parce qu'il va me juger. Et même peut-être mes intentions sont nobles. Moi, pour moi, il n'y a pas de péché. Parce qu'il ne faut pas voir le péché partout. Hein. Mais une chose qui est certaine, parce que je dois quand même le dire, hein, tout est pur pour celui qui est pur. Hein. Mais tout est impur pour celui qui est impur. Donc après, c'est une question de maturité spirituelle. Mais la liberté chrétienne, elle doit rester quand même dans des normes. Et moi, je peux pas dire je m'en fiche ou je me moque. Finalement, je fais ce que je veux. Et mon frère, s'il est pas content, ben il pense ce qu'il veut. Non, c'est pas possible ça. C'est pas possible parce que c'est blesser l'amour et c'est blesser la conscience des frères. Et nous l'avons vu au verset 5. Enfin, nous l'avons lu. Il est dit tout simplement d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Alors, il faut se normaliser. Hein, c'est pas un régiment, l'Église. C'est pas un conditionnement, c'est pas une caserne. Où là, eh bien, décrété du haut de l'estrade par le pasteur, hein, parce que lui aussi il se trompe. Hein. Et il est pas parfait, hein. On n'est pas, moi, je suis pas le pape. Hein. J'ai pas une parole, comment dire, absolue. Hein. Non, pas du tout. Un homme comme les autres. Mais une chose qui est certaine, c'est que la normalisation, c'est mon rapport que je peux avoir avec Dieu. Et c'est par rapport au Saint-Esprit qui m'enseigne, etc., etc. Et c'est pour ça que le légalisme n'est pas toujours bienvenu dans une église qui se dit évangélique. Parce que l'évangélique, le monde évangélique, c'est un monde de liberté. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Mais ne faites pas de la liberté un objet pour en faire un sujet pour vivre selon la chair. Ça, ce sont des paroles qui me reviennent spontanément. Alors, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, le côté positif. Mais voici trois résultats du véritable amour fraternel. Trois résultats maintenant. Je pourrais résumer ce que nous avons dit jusqu'à maintenant par ceci. Agir de la bonne façon, pour de bonnes raisons, il en arrive toujours des bonnes choses. Ça peut être la règle de notre Église et de la manière dont je vis l'Église. Donc, la bonne façon, les bonnes raisons, et il en arrivera toujours de bonnes choses, parce que Dieu bénira toujours, eh bien, ce lien d'unité, d'harmonie entre nous, qui repose sur un fondement qui s'appelle la communion fraternelle, l'amour fraternel. Et on ne peut pas dire, moi je ne parle plus à ce frère et à cette sœur, parce que bon, j'ai un différend avec lui, c'est pas normal. Quelquefois il peut y avoir des choses qui ne vont pas entre nous. C'est arrivé, on en a connu, hein. Ça c'est sûr, hein. Et on en connaîtra encore. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'au moins puissions-nous nous saluer. Hein? De passer quelqu'un à rente ici et puis que vous vous mettiez dans un autre endroit pour pas être assis à côté de lui, qu'est-ce que vous voulez? Il faut régler le problème, parce que je voudrais quand même vous dire que s'il n'est pas réglé sur terre, comment vous allez vivre? Oh, je sais que le ciel est grand, le paradis de Dieu, il est vaste. Ça, vous pourrez toujours vous mettre derrière un petit nuage, hein. Mais ça va être difficile, parce que ça relève d'une autre doctrine essentielle et fondamentale, esprit de l'Évangile, c'est le pardon. Et il faudra que ça soit réglé. Faut que ça soit réglé, c'est normal. Parce que nous sommes appelés à construire et non pas détruire. Et c'est une école. Vous savez, quand il y a des dissentiments, toutes sortes de choses, il y a des choses qui sont des broutilles. Il y a des choses qui sont plus graves, ça c'est sûr. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il faut toujours, quand je viens à l'église, de dire, je suis là pour construire. Je suis un constructeur. Ouais. Je suis là pour participer au bien de l'Église, de mes frères, de mes sœurs, dans son ensemble. Et je suis pas là pour en profiter. Je viens pas à l'Église pour dire, eh bien, moi, je prends, mais je donne rien. Non. Mais le Seigneur nous demande pas de donner en espèces seulement, et sonnantes et trébuchantes. il nous demande de le donner avec notre cœur, c'est-à-dire avec finalement, eh bien, un bon état d'esprit, quoi qu'il en soit. Alors, le verset 2, que chacun de vous, de nous, plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Il y a un mot qui est intéressant. Grandir ensemble est bénéfice à tous, bénéfique à tous. Moi, je regrette, mais bon, je ne suis que renvoyé à mes prières, hein, de prier. Moi, je regrette que ça fait bientôt 50 ans que cette église est ouverte. C'est en 68 déclaration de l'association de l'église évangélique de Saint-Nazaire. Et imaginez-vous un instant, mes frères et sœurs, si tous ceux qui sont arrivés au début, mis à part ceux qui sont partis dans la gloire, ça c'est normal, si on était tous là, ça serait peut-être 10 églises que nous aurions à Saint-Nazaire. Peut-être des petites unités comme ça. 10 églises. Ouais. Alors, moi je dis qu'on ne peut pas vivre en faisant cavalier seul. Moi je suis pas là à forcer le trait en disant ben vous, on voit pas. Moi je suis pas le dimanche matin en train de vous téléphoner en disant je vous ai pas vu. Hein, je veux marquer sur un papier parce que ça fait au moins 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 6 mois que vous n'êtes pas venu. Non, c'est pas ma responsabilité, mes frères et sœurs. Ma responsabilité, c'est d'être là le dimanche matin pour vous apporter la parole. Maintenant, chacun va manger avec son appétit. Et si on a l'appétit de Dieu, de la parole de Dieu, de la Sainte Cène, de la communion fraternelle, eh bien on sera là. Moi, je suis le cuisinier. J'essaie de varier les menus. Pour pas qu'on dise à un moment donné, Alain, il commence à nous mettre, on en a par-dessus la tête, c'est toujours le même message. Je travaille dans la semaine, ça m'arrive, hein. Et ça travaille, hein. Quelquefois, j'ai pas l'air de travailler, mais je travaille quand même. Mais ça, vous êtes pas là pour le voir. Parce qu'il y a toujours un souci d'apporter quelque chose de nouveau et de se laisser conduire par le Saint-Esprit pour que vous soyez bien nourris, mes frères et sœurs. Et même quand on donne une bonne nourriture, ça, certains, ça leur dit rien du tout. Voilà. Ils manquent d'appétit. Il faudrait leur donner un petit peu de vitamine, je ne sais plus laquelle, qui ouvre l'appétit pour dire, mais je dévore ta parole parce que j'en ai besoin. Waouh! Ça, c'est quelque chose. Moi, j'ai besoin d'avoir la parole de Dieu pour moi-même, hein. D'avoir la prière aussi. Et tout ça, la prière, ça se fait dans la communion fraternelle. Vous savez que, peut-être que, je voudrais vous le rappeler, le mercredi soir, on a une réunion de prière. Oui. Et puis à Redon, c'est la même chose. Une église qui n'a plus de réunion de prière, c'est une église qui est perdue. Hein. Ah. Alors, c'est vrai que tout cela, eh bien, c'est bénéfique à tous. Ce qui nous fait rebondir, c'est que la critique, le jugement péremptoire, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, parce que moi, le Seigneur m'a montré ce qui était comme ça. Bon, si vous l'a montré, c'est très bien, faites-le, mais on n'impose pas aux autres. Et puis tout ce qui est un petit peu en dessous les chaises, là, les divisions et toutes sortes de choses qui courent, ça arrête la croissance d'une église, mes frères et sœurs. Je dis bien, ça arrête. Et quand je vous ai dit que quand on vient dans l'église, on vient pour s'édifier, on vient pour édifier les autres, on vient pour construire, alors tout ce que je viens de dire, ça arrête la croissance. C'est normal. Vous savez, quand il y a des histoires et des disputes dans une famille, la famille se désunit. C'est pas possible, on peut pas semer l'ivraie et puis le bon grain en même temps. Et ça arrête la bénédiction. C'est pour ça que, en ce qui concerne les paroles, dans l'Éphésiens chapitre 4, il est dit ceci, « N'attristez donc pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit. » Et quand une église fourmille de toutes sortes de choses sur les uns sur les autres, eh bien vous êtes sûr, vous pouvez dire à Dieu, moi en tant que pasteur, je le sais, hein, en tous les cas, ça, vous pouvez dire qu'il n'y a plus de croissance, il n'y aura plus de réveil, il n'y aura plus de bénédiction. On va rester comme ça et c'est tout. Mais moi, j'ai pas envie que ça reste comme ça. J'ai envie que ça avance. Est-ce que je sais le faire? Je ne sais pas. Mais toujours est que, il me semble que c'est quand même le principe. Je vais passer au verset 6 maintenant. Afin que tous ensemble, voyez l'unité, hein, d'une seule bouche, vous glorifiez Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En découle l'unité du corps de Christ. C'est la chose la plus précieuse. Comme un homme et une femme, un mari et son épouse, c'est essentiel dans la vie d'un foyer, des enfants, pour leur équilibre et puis pour tout le reste. Et ça s'appelle l'amour. L'unité du corps de Christ. L'église parfaite, est-ce que ça existe? Un couple parfait, est-ce que ça existe? Une famille parfaite, est-ce que ça existe? Non. Alors n'allez pas dire, comprendre que, puisque Alain a dit que c'était non, alors on a de la marche, hein. Non, non, ça n'existe pas, mais néanmoins, on a le Seigneur aussi avec nous. Pour nous aider dans tous ces domaines, d'ailleurs. Fidélité, consécration, prier ensemble, déférence, responsabilité, ne serait-ce pas ce que Paul veut nous dire dans Romains chapitre 12 verset 1er, quand il est dit ceci, offrez un sacrifice vivant, pas un sacrifice mort, un sacrifice vivant, et soyez renouvelés dans votre esprit, dans votre intelligence, afin que vous connaissiez la volonté de ce qui est bon, de ce qui est bien et de ce qui est parfait. Voilà. Maintenant, on va passer à autre chose, enfin c'est la projection. Maintenant, on va évoquer les raisons d'être et de faire ainsi. D'être ainsi et de faire ainsi. Le danger, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'hypocrisie. De jouer la comédie pour que finalement, eh bien, on ait l'air d'eux, mais on n'a pas à avoir l'air d'eux, on est ce que l'on doit être. Tout simplement. Le modèle d'intégrité nous est rapporté à partir du verset 3. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Il n'a pas cherché ce qui lui plaisait, nous dit le passage. Porter le nom de chrétien, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est imiter Jésus, c'est chercher à imiter la personne de Jésus, c'est chercher le profit des plus faibles, celui qui a du mal à marcher, celui qui a du mal à comprendre, celui qui a du mal, finalement, eh bien là, à se mettre à niveau dans la vie spirituelle et dans la vie de l'Église, c'est les aider, c'est les consoler, c'est les réconforter, c'est les encourager. Et ça se nomme, avec un mot que nous utilisons de moins en moins parce qu'il a une connotation religieuse qui ne nous plaît pas toujours, c'est la charité. Ouais. Vous savez que nous sommes dans un monde laïque, et aujourd'hui, quand les gens parlent de charité, ils haussent les épaules. Hein. Ah, la charité. Parce que je pense que l'homme qui ne connaît pas Dieu, lui a quelque chose de meilleur que la charité. Ah, il fait des dons, il fait des œuvres, etc., etc. Mais ça revient toujours à la gloire de lui-même, ou de son association, ou de son mouvement. Alors que pour nous chrétiens, la charité, c'est pour la gloire de Dieu, pas pour la nôtre. Hein. Le bien de notre frère, mais la gloire de Dieu, ça c'est important. Et on l'a vu par exemple dans l'histoire du bon samaritain dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Il a tout donné, hein, ce bon samaritain. Ouais, pour que quelqu'un, un étranger, celui qui ne le connaissait pas même, voire à la limite un adversaire, parce que c'était un pauvre, voilà, c'est un juif qui avait été sous les coups, mais c'est un autre, un étranger qui va lui faire grâce. Alors, on a bien sûr une idée de ce que ça veut dire. Or, tout ce qui est écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et là, on met un point de plus. Autre raison de faire et d'être comme il convient, encouragé par la parole de Dieu. La parole de Dieu nous encourage. Ce matin, ce qu'on fait là dans l'instant, c'est que on essaie de prendre la parole de Dieu, on prend la parole de Dieu parce que c'est elle qui va nous encourager tous les jours à être et à faire ce qui est bon et ce qui est bien. Et à nous rappeler que nous ne sommes pas tout seuls, que nous ne sommes pas des électrons libres dans ce monde, mais que j'ai des frères et des sœurs, plus âgés que moi, plus jeunes que moi, des hommes, des femmes, avec des situations peut-être différentes, mais c'est la parole de Dieu qui va me donner non pas d'apprendre à supportez-vous, mais de nous aimer. Supportez-vous, c'est juste à la limite, hein, vous savez. Mais aimer, c'est autre chose. C'est une autre dimension d'aimer. Toute l'Écriture nous exhorte à la patience. C'est dur, hein, quelquefois, hein, être patient. Hein. Jusqu'à quand je vais le supporter, celui-là, hein. Oh, voilà. Hein. Eh oui, mais c'est ça, hein. Parce que la patience est un fruit de l'esprit. Et pour autant que je suis rempli de la personnalité, de la personne, des sentiments de Jésus, eh bien, ce que je n'ai pas, si je manque de patience, c'est lui qui va me donner, il va me transformer en même temps. C'est un bénéfice pour l'autre, mais c'est aussi un grand bénéfice pour moi, naturellement. C'est l'enseignement par excellence du savoir-faire, du savoir-dire, parler, et du savoir-vivre ensemble et aimer. Eh bien, et résumé en conclusion d'un chapitre que Paul nous donnera dans 1 Corinthiens, chapitre 14, quand il dira, chapitre 13, quand il dira, trois choses demeurent. L'amour, la foi et l'espérance, mais la plus grande des choses, c'est l'amour. C'est l'amour, mes frères et sœurs. Et si nous sommes interpellés ce matin parce que nous avons le sentiment de manquer d'amour, demandez-le au Seigneur et il vous donnera l'amour dont vous avez besoin pour les autres, pour les uns et pour les autres. Ouais. C'est aussi se sentir responsable personnellement. Quand nous sommes en église, c'est pas la proclamation de Caïn. Suis-je le gardien de mon frère? Ben oui, mais on est quand même le gardien de notre frère. Qu'on le veuille ou pas. Non pas d'une manière genre gardien de prison, de dire, moi, je suis dans l'église et je lui remonter un peu les bretelles. C'est comme ça qu'on dit quelquefois. Eh, comme ça, ça le rehausse un petit peu. Hein, ou on va lui faire les remontrances parce que je me crois le droit de devoir le faire. Hein. Priez donc, mes frères et sœurs, quelquefois, pour tourner sa langue dans sa bouche et quelquefois se mettre devant le Seigneur. Il y a des choses qu'il faut dire. Il y a des choses où nous n'avons pas envie de dire parce que nous craignons certaines, peut-être, réactions. Mais il y a des choses, quelquefois, faut pas les dire. Faut les dire au Seigneur. Et le moment favorable, peut-être que vous pourrez les dire parce que Dieu vous donnera les conditions de celui qui va parler, vous, en l'occurrence, et de celui qui va entendre. Parce que si vous parlez et que l'autre veut pas entendre, ça sert à rien. Ça va faire de la division, ça va faire de la dissension. Faut que tout s'accorde, hein. Et il y en a un qui sait le temps et le moment. Eh ben, c'est le Seigneur, hein. Donc, sentir personnellement au bien, à la paix de l'Église. Ouais, on a connu des temps dans nos églises qui n'étaient vraiment pas des temps de paix. Et un climat mauvais. Le ciel était sombre. Les gens étaient malheureux. On a connu des sorties, je parle pas seulement pour eux ici. Hein. On a vécu quelquefois des sorties après les cultes où les gens s'enfuyaient vite fait chez eux parce que il y a quelque chose qui n'allait plus, ça ne collait plus. C'est terrible, hein. C'est comme dans une famille où on se parle plus, c'est pareil. C'est mauvais tout ça, hein. Mais je pense que la paix dans l'Église, c'est quelque chose, et je dois être un contributeur de cette paix dans l'Église. Même si ça doit me coûter, même si ça doit me coûter des efforts, même si ça doit me coûter d'entendre parler de moi d'une manière qui n'est pas parce que je ne suis pas compris, parce que nous ne sommes pas compris. Ça peut arriver tout ça, hein. Déférence envers chacun. Déférence générationnelle. Parce qu'il y a des personnes plus âgées, il y a des personnes plus jeunes. Et de nouveau, nous accepter. Et de pas dire que quelquefois, eh bien, oh, bah, les vieux dans cette église, hein, non, attendez, hein, bah, c'est insultant, vous m'excuserez. Parce que ceux qui disent ça, un jour, ils seront vieux. Et ça, j'en suis sûr. Ah! J'entends quelqu'un dire, ah, ça? Bah, c'est vrai. Voilà. Et on voit pas le contraire. On n'entend pas des personnes âgées dire, un jour, quand je serai jeune, parce qu'on retourne pas en arrière, hein. Pas question, hein. Donc, se respecter les uns les autres. Et moi, je bénis le Seigneur de ce qu'il y ait toutes sortes de générations. Moi, j'aime bien qu'il y ait différentes générations. Et nous avons encore beaucoup à apprendre. J'ai encore beaucoup à apprendre de mes aînés. Ouais, ouais, c'est vrai. Les différences sociales, différences de peau, différences d'origine, de religion, etc. Parce que maintenant, il n'y a plus ni juifs, ni grecs. On est tous en Jésus-Christ. Alors, on va pas ressortir les vieilles, hein, l'âge de guerre qui a traîné pendant des siècles et des siècles, hein. Ça, c'est sûr, hein. Alors, sans exception de personne, nous dit la parole de Dieu. Cette attitude bienveillante ne peut donner que le fruit grandissant de la confiance entre nous. C'est beau d'avoir confiance les uns envers les autres. Je peux te confier ceci, je peux te dire ceci. Je sais que ça sera fait, ça sera bien, et ça sera peut-être mieux fait que si je le faisais moi-même. Oui, ça peut arriver. Et je pense que ça développe aussi l'affection fraternelle. Vous l'avez démontré, frères et sœurs, et je suis pas le seul à le dire pour moi-même, mais je suis aussi parmi vous, et de savoir que combien lorsqu'on est malade, lorsqu'on a un problème, lorsqu'on a une difficulté, lorsqu'on passe par le chômage, lorsque l'on passe par des moments vraiment difficiles, le deuil, les larmes, les pleurs, les chagrins, que la manifestation bienveillante de mes frères et de mes sœurs, ça fait vraiment du bien. Ça, faut pas l'oublier, hein. Alors quelquefois, on dit, mais je ne veux pas vous déranger parce que vous étiez malade, etc., etc. Bon, c'est vrai, on peut le comprendre tout à fait, hein. Mais bon, on peut le décliner de différentes manières, hein, aujourd'hui avec les moyens qu'on a, hein. Pas seulement avec une carte postale, bien que ça fait vraiment plaisir. Ouais, et ça c'est bien, c'est quelque chose de tellement important tout cela, hein. Le développement de notre affection fraternelle, parce que les mobiles qui sont bons, qui sont purs, eh bien, viendront tôt ou tard, eh bien, une belle et une grande bénédiction. Et parce que l'Église, elle est rayonnante si elle est spirituelle, si elle a la vie spirituelle. Verset 6, j'y reviens. « Afin que tous ensemble d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » L'Église, à ce moment-là, si elle comprend ses qualités, si elle renferme ses trésors à l'intérieur d'elle-même, eh bien, est portée à la louange et à glorifier le Seigneur. Que tout cela serve à la louange. Mes frères et sœurs, nous avons tous bénéficié d'une grâce de Dieu. Moi, je me réjouis, il faut aller encore plus loin. Quand le dimanche matin, eh bien, on se bouscule pour louer le Seigneur, le bénir et le glorifier. Alors on le fait déjà à travers les cantiques. Mais continuez, mes frères et sœurs. Moi, je vous encourage. Quand vous venez en disant ce matin, je vais bénir le Seigneur, non pas parce que je vous ai dit qu'il fallait bénir, c'est une obligation, mais parce que vous allez vous préparer et vous dire, je viens ici, je ne repartirai pas sans avoir dit merci au Seigneur. Parce que vous savez que votre glorification du nom de Jésus et votre bénédiction que vous apportez par votre présence et vos louanges et vos actions de grâce, ça bénit les frères aussi. Eh oui, on a entendu des belles louanges, on en entend des belles louanges. Quelquefois, ça, finalement, eh bien, nous fait un bien immense. On sent qu'il y a quelque chose, même une simple louange, quelques mots. Ça fait toujours du bien de toute manière. Et l'apôtre, vous avez vu comment il le dit, hein, d'une manière, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Seigneur. Alors on le fait d'une seule bouche quand on chante les cantiques. Eh ben oui, parce qu'on chante pas de, on chante pas trois cantiques en même temps, hein. Les paroles sont pas les mêmes et la musique n'est pas la même non plus. Mais ça s'appelle glorifier. Chanter de tout votre cœur, frères et sœurs. On chante ensemble. On ne se tait pas, hein. Alors, quelquefois, on se dit, mais moi, je sais pas chanter, je chante faux. Alors, vous mettez peut-être un ton inférieur pour ne pas emporter l'église dans les décors. Mais c'est avec sympathie que je dis ça, hein, croyez bien. Le Seigneur, on bénit son nom. Et l'église, c'est une communauté unie où aucune partie, aucune fraction, aucun groupe ne doit prendre l'ascendant sur une autre, hein, ni en supériorité, ni en infériorité, tous différents mais égaux, mes frères et sœurs. Nous sommes tous égaux en Jésus-Christ. Pas plus ni moins. Ah oui, le salut c'est ça, devant Dieu. Acceptez l'autre librement, réellement, sans condition, ni réserve, et à tout moment. C'est pour ça que Paul dira dans Philippiens, faites tout ce que vous faites sans murmure, ni hésitation. Ouais, ni hésitation. Parce que là, on n'a pas hésité, hein, quand on sait que ce sont des choses qui sont bonnes et excellentes. Je termine. Je termine à travers ce verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. Si Jésus m'a accueilli, si Jésus vous a accueilli, alors cela doit déterminer l'accueil des autres. Si Jésus l'a fait pour moi, moi, je dois le faire pour les autres. C'est logique, hein? Ou autrement, bien, je suis dans une phase grise, qui est une forme d'hypocrisie et je pêche. Oui. Je pêche, tout simplement. L'accueil des autres, car la bénédiction nous est donnée tous, sans exception. Ah, qu'il est beau de voir des frères demeurer ensemble. Eh oui, vous connaissez, hein, de voir des sœurs, des frères et des sœurs demeurer ensemble. Surtout que il nous est donné aussi dans ce psaume 133, il est dit, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Eh oui, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Vous voulez que l'Église soit bénie? Ben, on commence par ça, hein. Ça, c'est sûr. L'Église va être bénie. C'est pas nos activités, c'est pas nos programmes, c'est pas nos recettes, c'est pas nos codes et tout ce que nous pouvons avoir. Non, la bénédiction, c'est parce que si nous nous aimons les uns les autres, nous serons finalement un témoignage à l'extérieur, mais nous allons avoir cette union qui va se renforcer. Et moi, je vous encourage à aller encore plus loin. Demeurez ensemble. Ça veut pas dire vivre ensemble, hein. Mais c'est, en tous les cas, nous demeurons dans le Seigneur. Ainsi donc, l'obéissance. Le contraire serait la négligence et le préjugé. Mais toujours les choses en comparaison, parce que on comprend bien. Donc l'obéissance entraîne selon l'ordre d'aimer, parce que c'est un ordre, l'enrichissement et encore, ce que nous dit le verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Vous vous rendez compte? C'est formidable, hein? C'est ça l'Église, c'est ça. Je vais vous raconter une petite histoire. Ah, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Enfin, la fin, F-I-N. Parce que nous avons besoin aussi de nous substanter d'ici quelques instants. J'espère que ça va, j'ai pas été trop long. Ma petite histoire, c'est toucher l'éléphant. Wow. Vous savez qu'il y a un tigre qui s'est échappé, là, d'un zoo. Ah. Bon, c'est un gros chat, hein. C'est vrai, 200 kilos. C'est pas une. Bon, il a profité, c'est tout, hein. Enfin, tant qu'il profite pas de nous, c'est le principal. Dans un cirque, comme il en arrive, il y en a partout, des cirques, on fit venir sur la piste, là, alors qu'il y avait naturellement des spectateurs, on a fait venir 4 aveugles, et on leur demanda à chacun d'entre eux de toucher l'éléphant, de toucher un éléphant. Alors, il y avait un gros pachyderme qui était là au milieu, et puis ces 4 aveugles, puis naturellement, tout le monde regardait autour d'eux. Et figurez-vous que l'un après l'autre, il devait dire ce qu'il ressentait au toucher de l'énorme éléphant. Il était aveugle. Hein? Et on leur dit, mais qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous pouvez interpréter la chose et tout ça? Le premier a dit, c'est un long tuyau. Parce qu'il avait touché la trompe. Le second, c'est un pilier recouvert d'une croûte épaisse. Il avait pris une patte. Ça va? C'est pas trop compliqué jusqu'ici, c'est bon. Hein? Bon. Le troisième reconnut que c'était une toile de tente très tendue, la peau. Et puis enfin le quatrième, c'est vraiment un gros pinceau, c'était la queue. Bon, attendez, c'est pas fini. Voilà l'éléphant qui est touché par des aveugles, naturellement, hein, ils ne voient pas, et ils vont donner leur impression en fonction de ce qu'ils ont touché. Hein, là, c'est la trompe, la patte, la peau, la queue, etc., etc. Ils vont en déduire quelque chose. Chacun va dire, voilà, mais moi je suis convaincu que hein, ce tuyau, cette peau tendue, enfin voilà, peu importe, peu importe. Vous savez qu'ils ont tous raison, et ils ont tous tort à la fois. Et quelquefois dans l'Église, c'est un peu ça. Eh oui, parce que nous ne voyons qu'une partie. Nous ne gardons qu'une partie. Ça peut être une partie théologique, doctrinale. Ça peut être une partie en fonction, finalement, eh bien, de ce que nous avons compris dans l'Évangile, etc., etc., en disant, mais moi, je suis sûr, hein, c'est un pinceau, hein. C'est un pilier. Il n'y a pas de colonne hein, chez nous, heureusement, hein, d'ailleurs. Et on peut interpréter les choses de cette manière, naturellement. On est toujours dans la configuration des aveugles. Vous savez que cette leçon, ça paraît tout simple comme ça, mais nous enseigne comment nous voyons chacun d'entre nous l'autre ou les autres. Alors c'est vrai que moi je vous vois encore là, ça va. Hein, je porte des lunettes quand même, des verres correctifs, mais je vous vois quand même, je sais qui vous êtes, hein, et je me trompe pas en tous les cas. Voilà. La communion fraternelle, ça pourrait être cela un petit peu, quand c'est pas au point où elle doit être normalement. Dans l'Église, je dirais qu'il en est comme dans notre histoire, vous savez, alors rien à comparer avec un cirque, un éléphant, hein, surtout, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein, naturellement. Nous voyons souvent qu'au travers de nos normes personnelles, fonction de notre cheminement de vie, hein, voilà, toutes sortes de choses, notre catégorie de christianisme, nous sommes dans une église donc d'obédience protestante évangélique et qui plus est pentecôtiste, on peut le dire comme ça. D'autres auront, on dira, voilà, moi j'ai une vision qui est beaucoup plus catholicisante, etc., etc. Enfin, je mets un terme parce que moi je m'adresse quand même qu'à des chrétiens qui ont fait quand même l'expérience de la nouvelle naissance. Voilà, et on va rester sur cette base-là, hein, naturellement. Et donc, nous voyons en fonction de nos divergences et affirmations dogmatiques et sont souvent des sources de querelles entre nous. En disant, mais moi, je crois pas comme ça, tu devrais croire ceci, etc., etc. Et puis, t'as pas la foi, et puis, tu devrais pas vivre comme ça, et puis, tu devrais pas manger ceci, et tu devrais t'habiller d'une autre manière, etc., etc. Voilà, hein. Ce sont des sources de querelles inter-église, et on le voit, et ce sont des sources de querelles intra-église. Parce que ce ne c'est pas seulement l'extérieur, mais ça peut être aussi à l'intérieur de chez nous. Hein. Donc, le mot que je retiens, c'est le mot querelle. On ne s'entend pas. Désunion, critique, enfin tout ce que vous voulez, hein, naturellement. Voir un aspect, une partie, voilà ce qui tue la communion fraternelle. On est tous unis en Jésus-Christ. On est tous fondés sur sa parole. On est d'accord avec les principes élémentaires, finalement, de la foi, du salut, de la vie spirituelle. D'accord. Bon. On a le droit, naturellement. Mais ça peut tuer la communion fraternelle quand il y a insistance et quand on manque de respect de ce que l'autre est, de ce que l'autre croit et de ce que l'autre fait. Et ça, ça peut poser des problèmes. L'Église de Jésus-Christ, retenez bien un adjectif, elle est plurielle. D'ailleurs, elle est plurielle au milieu de nous. D'abord, il y a des hommes et des femmes, il y a des jeunes et des moins jeunes. On pourrait parler de la pluralité complètement et totalement, hein, ça c'est sûr, hein, et ça c'est clair. Hein. L'Église de Jésus-Christ, elle est plurielle dans ses manières d'être, dans sa manière de vivre, même la foi, de servir, et chacun touche l'éléphant, si je peux revenir à mon idée saugrenue, à sa façon. Et il reste sur sa façon. Et il se dit, ben voilà, moi je comprends pas que l'autre, il ne voit pas les choses comme moi je les vois. Le christianisme évangélique est un village mondial. C'est pour ça que je vous ai parlé d'Afrique, d'Occident, d'Asie, etc., etc. C'est un village mondial. Le Seigneur est le sauveur de tous les âmes dans le monde entier qui l'ont reconnu comme, eh bien, victime expiatoire et qui ont cru dans son pardon et dans son salut. Un village mondial où chaque dénomination se croit détentrice de la vraie vision. Et c'est bien le problème. C'est bien le problème. La vraie vision. La communion fraternelle et l'amour qui y préside dans tout cela, c'est ce que nous avons défini ce matin, ont pour but en premier de nous guérir de notre cécité, quelquefois de notre étroitesse de pensée et d'esprit, nous rendre plus modestes, mes frères et sœurs, plus bienveillants, plus accueillants et objectifs dans la démonstration d'affection entre nos frères et nos sœurs en Jésus-Christ. Ça va ? On comprend ? Ça, c'est important. Parce que l'amour, la foi, l'espérance, mais la plus grande des choses, c'est l'amour, mes frères et sœurs. C'est l'amour. Et ça, c'est essentiel. Et je termine par une parole de Paul qui dit ceci. On l'a vu l'autre jour quand on avait parlé des défauts de la vision, les vers correcteurs, toutes les maladies, finalement, eh bien là, des yeux. Il dira, mais que Dieu illumine, je prie pour vous sans cesse, mais que Dieu illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez. Et que vous sachiez quoi? Eh bien la suite, que Christ habite dans vos cœurs. Parce que si Christ habite dans nos cœurs, il habitera dans l'Église, il sera véritablement celui qui présidera en tout, il sera le roi. Eh bien, que Christ habite dans vos cœurs par la foi, parce que vous êtes enracinés dans l'amour, enracinés profondément dans l'amour. Que Dieu nous bénisse. Et vous oubliez mon histoire d'éléphant, c'était qu'une histoire. On va prier si vous voulez bien. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier. Merci pour ce temps partagé. Moi, je te bénis pour mes frères et sœurs qui ont fait cet effort. Mais est-ce un effort de venir nous rejoindre les uns et les autres, en sachant que nous ne voulons pas y mettre l'habitude, nous ne voulons pas y mettre la routine, nous ne voulons pas y mettre même le devoir. Mais dans ce rendez-vous, comme dans les autres, nous voulons y mettre tout simplement, eh bien là, que c'est parce que nous avons vraiment envie, parce que nous avons faim et soif, parce que nous avons le bonheur de rencontrer nos frères et nos sœurs, et ainsi, Seigneur, de pouvoir savoir que tu es au milieu de nous, parce que là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, et moi je vais y ajouter dans l'amour, dans le respect des uns et des autres, dans l'affection, dans la bienfaisance, dans la bienveillance. Alors si là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, je te bénis pour ta parole ce matin. Aide-nous à faire des progrès. Aide-nous, Seigneur, à être des contributeurs, à faire avancer l'œuvre. Et nous t'en bénissons et nous te remercions. Oui, merci, Seigneur. Dans le nom précieux et glorieux de Jésus, moi je te remercie parce que tu m'as donné deux familles. Il y a une famille selon la chair. Et puis il y a une famille selon l'esprit. Et celle de l'esprit, elle est éternelle, cette famille-là. Et nous nous retrouverons, nous vivrons ici-bas, mais nous nous retrouverons tous ensemble dans la présence de notre roi, de notre sauveur et de notre Seigneur, Jésus-Christ. Et cela, Seigneur, pour toujours à jamais. Merci, Seigneur. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.